Alors, je suis devant la mairie de Vaux-en-Velin, banlieue est de Lyon, coincée entre le palais des sports Jean Capiévitch, le centre culturel communal Charlie Chaplin, et un hôtel de ville un peu carré, une architecture grise et cubique, sur lequel il y a marqué liberté, égalité, fraternité, solidarité, ce qui n'est pas fréquent. Et j'ai rendez-vous avec Najette, que j'attends sur des petits bancs en béton.
Ça fait longtemps que vous m'attendez ?
Ouais, ça fait 5-10 minutes.
Heureusement, vous êtes mis à l'ombre.
Ouais, j'étais au soleil au début. Je me suis dit, je dois attendre.
Profitez du soleil.
Ça va ?
Ouais, ça va, et vous ?
Ouais.
Najette, 7 ans de galère.
7 ans de galère.
Je m'appelle Najette. Mon nom de jeune fille, c'est Caudry, et mon nom de mariée, c'est Nuiwa. Je suis née en Algérie, du côté de Sétif, à Borj-Bouarérid.
Donc plutôt du côté de la Kabylie ?
Oui, la Grande Kabylie.
La Grande Kabylie.
Je peux dire que j'ai grandi moitié là-bas, moitié ici, parce qu'à l'âge d'un an, j'ai perdu mon père, qui est un ancien combattant. Donc je n'ai pas connu mon père.
Un ancien combattant ?
C'est un ancien combattant, il a fait la guerre 39-45, il a été en captivité pendant 2 ans. Et suite à une pneumonie, il est décédé. Une pneumonie qu'il avait attrapée là-bas. Donc ma mère, elle était obligée de nous élever. On était cinq enfants, 3 sœurs et 2 garçons. Et comme j'étais la plus jeune, elle m'a laissée chez mes parents parce qu'elle était obligée de travailler. Elle ne pouvait rien percevoir étant donné qu'elle était encore jeune. Elle n'avait que 35 ans. Donc elle s'est mise à travailler pour subvenir à nos besoins. Et comme moi, j'étais la plus jeune, j'étais obligée de rester là-bas chez mes grands-parents. Donc, entre-temps, je venais de temps en temps avec elle. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à venir en France. J'ai étudié une partie de ma scolarité, je l'ai faite à Gennevilliers, à Paris, où habitent toujours ma mère et mes sœurs. Et après, je repartais en Algérie pour continuer mes études là-bas.
Quand vous étiez petite, quand vous étiez enfant, vous préfériez quoi ? Vous préfériez l'Algérie ou la France ?
Non, je préférais plutôt être avec ma maman parce que je n'avais pas mon papa. Là où était maman, je voulais être avec elle, qu'elle soit ici ou là-bas.
Elle s'appelle Najette, elle est blonde, elle a un piercing dans le nez, elle parle le français aussi bien qu'un président de la République, mais elle est originaire de Kabylie. Et en début de siècle, c'est pas bien vu, surtout quand son titre de séjour humanitaire arrive à sa fin. Pourtant, elle a à moitié grandi ici, et on va le voir, elle va fuir une domination, celle des hommes sur les femmes. Une domination qu'on n'hésite pas à dénoncer ici, surtout quand elle a lieu là-bas. 7 ans de galère en France avec 2 enfants, mais aussi 7 ans de soutien à Vaux-en-Velin dans la banlieue de Lyon, c'est l'histoire de Najette.
Alors, dès l'âge de 7 ans, vous étiez un petit peu baladée entre les deux pays.
Oui, jusqu'à l'âge de mon mariage, où je me suis mariée là-bas. Je travaillais comme clerc d'avocat. Et à un moment donné, j'ai fait une grosse dépression. Et la famille de mon mari m'a rejetée. Ils m'ont prise pour une folle. Ils commençaient à m'emmener chez les marabouts et tout ça. Donc ça n'arrangeait pas les choses. Et ma mère, quand elle a vu que j'allais... Parce que j'ai fait des tentatives de suicide, elle a voulu... me ramener ici pour me soigner. Donc j'ai fait 3 mois ou plus au Vinatier avec un suivi psychologique au CMP de Bron et de Vaux-en-Velin.
Alors le Vinatier, c'est l'hôpital qui s'occupe justement des maladies un petit peu psychiques.
Psychique.
Qu'est-ce qui vous fait déprimer ? Qu'est-ce qui provoque cette dépression ?
Le fait de subir les beaux-frères, les belles-sœurs, d'être toute la journée là pour faire à manger, pour laver, pour s'occuper des petits. Je pouvais pas placer un mot à chaque fois que je disais quelque chose. Comme mes parents n'étaient pas sur place, ils me disaient si t'es pas content, tu prends la porte. Et je supportais jusqu'au point où après j'ai pété les plombs. Et voilà, je voulais à tout prix soit me supprimer, soit arrêter de vivre de la façon dans laquelle je vivais. Moi qui a toujours vécu épanoui, qui a fait des études, qui a travaillé, je me suis sacrifiée après juste pour mes enfants. Je me suis arrêtée de travailler pour me sacrifier à mes enfants. Et après, je voyais que je commençais à devenir inutile. Le fait de rester toute la journée à la maison, qu'à laver, moi, cette vie, je la voulais plus, quoi.
Vous avez eu combien d'enfants du coup avec cette famille, ce mari?
Oui, j'ai deux garçons.
Deux garçons.
Qui ont été scolarisés depuis leur arrivée, parce qu'ils sont arrivés jeunes, ça fait 7 ans qu'on est là. Donc ils sont arrivés 8-6 ans. Le petit, il a fait la maternelle et le grand directement le CP.
Donc vous déprimez en Algérie, vous décidez, et votre mère vous pousse à venir ici en France. Donc ça, c'était il y a 7 ans, vous déboulez en France.
Oui. Mais je suis venue par hasard, dans ma tête, je ne voulais pas rester au fait. Moi, quand je suis arrivée, la seule chose que je voulais, c'est redevenir comme avant. Avoir la joie de vivre que j'avais avant, parce que même quand j'étais là, même quand je suis arrivée le mois de juin, mes soeurs m'ont fait sortir, m'ont emmené au cinéma, j'emmenais mes enfants au parc et tout ça. Mais j'étais toujours pas bien, je pleurais tout le temps. Et puis après, il a fallu qu'on m'hospitalise pour vraiment me soigner parce qu'il n'y avait pas le choix. De toute façon, c'était une grosse, grosse dépression.
Une grosse dépression par rapport à ce que vous avez vécu en Algérie avec la famille de votre mari. Oui. Donc du coup, suite à vos soins, vous décidez de rester en France? À quel moment vous décidez vraiment que l'Algérie c'est fini et que...
Parce que entre-temps, mes enfants commençaient à perdre la langue. Et comme ils sont venus petits, ils ont vite appris la langue française. Et le fait qu'après l'hospitalisation, il fallait être suivi par un psychologue et un psychiatre, ce qui fait que je suis restée encore 3 ou 4 années de suite, ce qui m'a empêchée après de réintégrer mon domicile. Et pour eux, voilà, je suis partie, je n'existe plus, j'ai peut-être fréquenté d'autres personnes. Voilà, j'étais mal vue, quoi.
Votre ex-mari, il n'a pas non plus cherché à revoir les enfants?
Il m'appelait de temps en temps pour avoir de leurs nouvelles, mais... Il s'est dit qu'il serait mieux avec leur maman. Et d'un côté, peut-être que ça lui faisait une responsabilité au moins. Voilà.
Et les enfants, ils ont vécu comment, ce départ?
Et ben, si, quand ils sont arrivés ici, il y avait les cousines, il y avait les tatas, il y avait la mamie. Donc, ils avaient tout pour se plaire ici, vu le mode de vie qu'il y a ici, le mode de vie, parce que moi, je vivais dans un petit département où il n'y avait pas tout ce qu'il y a ici. Alors ici, c'est la piscine, c'est les sorties, c'est le camping, c'est les sorties découvertes. Donc, ils ont été bien entourés quand même.
Encore aujourd'hui, ça ne leur manque pas?
Le papa leur manque un petit peu, mais pas beaucoup. Comme le grand, par exemple, je lui ai proposé, s'il voulait aller voir son papa, comme j'ai ma maman et ma sœur qui partent là-bas. Et apparemment, il n'est pas très... Il dit, si notre papa il a envie de nous voir, et ben, il n'a qu'à venir nous voir. Alors il a peur de repartir et de ne plus pouvoir revenir.
Ouais, il a peur de son père un peu.
Ouais, il a peur de son père, il a peur du fait de rester définitivement là-bas.
D'être obligé de rester là-bas?
Voilà.
Pourquoi?
Parce qu'on ne sait pas maintenant que comme ils ont juste des documents de circulation, je ne sais pas s'ils pourront aller le voir ou pas.
Donc du coup ça va mieux et puis...
J'ai obtenu des titres de séjour pour mon état de santé à titre humanitaire et après un certain temps, je sais pas, la nouvelle loi et tout ça, le nouveau quota, il a fallu qu'après ils m'envoient un courrier pour me demander de quitter le territoire français la fin 2005.
Fin 2005, donc ça faisait déjà 3 ans que vous étiez là?
Ça faisait 3 ans, oui.
Donc vous habitiez déjà ici à Vau-en-Velin?
Oui, j'étais déjà à Vau-en-Velin. Mes enfants étaient déjà scolarisés à Courcelles et moi je travaillais ici, j'ai travaillé à la piscine Jean Gelais, j'ai travaillé aux cantines des écoles sur Vau-en-Velin, j'ai travaillé dans les crèches, dans les garderies, donc je commençais à m'y adapter et en même temps me faire soigner.
Comment vous réagissez quand vous recevez l'obligation de quitter le territoire français?
C'est comme si que le ciel m'était tombé sur la tête parce que la seule chose que à qui j'ai pensé, c'était mes enfants, parce que je culpabilisais le fait d'être malade et de les avoir abandonnés un certain temps. Déjà, je culpabilisais beaucoup. Alors le fait de les ramener encore là-bas et repartir à zéro, c'était une deuxième culpabilité. Je m'en voulais beaucoup. Je me suis dit, c'est de ma faute. C'est moi qui ai venu et c'est de ma faute si je dois les déscolariser. Après, je me suis dit, c'est une invitation à quitter le territoire. Bon, j'ai commencé à faire les démarches qu'il fallait faire, Mais je ne m'attendais pas qu'un matin, il venait frapper à ma porte et nous réveiller à 6h du matin pour nous emmener directement à l'aéroport. Dormaient normalement et tout. Les garçons avaient pris la veille leur douche pour se préparer pour aller à l'école le lendemain. Et à 6h du matin, il y a 3 agents qui viennent toquer à la porte. Et comme j'avais rien à me reprocher, je me suis dit, je vais ouvrir parce que finalement, je ne suis pas une criminelle. Moi, je pensais que le fait d'être restée en France et puis je vivais pas clandestinement. Tout le monde me connaissait, je travaillais, j'étais contractuelle à la mairie de Vanvelin. Les institutrices me connaissaient, je ne vivais pas cachée, mon dossier était déjà à la préfecture, je ne me considérais pas comme une clandestine. Un clandestin, c'est quelqu'un qui vient vivre en France, qui travaille au noir, qui ne se fait pas connaître, qu'on ne connaît pas s'il existe ou il n'existe pas. Moi, ce n'était pas le cas pour moi, donc j'ai ouvert honnêtement la porte et puis ils m'ont demandé de les suivre. J'ai pris tous mes papiers et je les ai suivis.
Avec vos enfants ?
Oui. Ils nous ont emmenés à la PAF. C'était en ville, à Lyon. Et après avoir vu mes papiers et me poser plein de questions, ils m'ont demandé de les suivre. On est monté dans leur fourgon. Et après, dans le fourgon, je leur ai demandé où est-ce qu'ils nous emmenaient. Et puis j'ai vu la destination Saint-Exupéry. Et là, il m'a dit, on vous emmène à l'aéroport pour vous monter dans le premier avion qui part. Il y a un voisin qui a vu la police venir me chercher, une voisine qui a été alertée à l'école. Et tout le monde s'est mobilisé, les institutrices.
Je crois que la journée la plus effroyable, quand même, c'est le jour où la police de l'air et des frontières
la directrice
est
de l'école.
Venue au domicile, la chercher de bon matin, ainsi que les enfants. Qu'il devait être embarqué dans un avion pour l'Algérie à 13h. Et là, la mobilisation de l'école a été extraordinairement rapide et extraordinairement puissante. Voilà, et...
Alors expliquez-nous un petit peu la mobilisation, comment ça se passe concrètement ?
Eh bien le téléphone, la photocopie, le bouche à oreille, et on était, je dirais, une bonne cinquantaine à Saint-Exupéry, intervention du maire auprès du préfet, l'avocate qui nous a rejoint.
Et là, ils sont venus à l'aéroport, donc ils ont pu empêcher l'embarquement sur l'avion. Mais après, monsieur le préfet a décidé que j'aille en centre de rétention pour étudier mon cas.
Bon, pour finir, Najette et les enfants n'ont pas été embarqués. Il y avait aussi, je dois dire, une solidarité des enfants, des élèves de l'école pour leurs copains, quoi, qui étaient arrachés brutalement à leur vie de tous les jours, à leur classe, à leurs activités sportives, à leur chat, toutes sortes de choses.
Donc vous vous retrouvez à la prison à Saint-Exupéry, la prison des sans-papiers, donc on appelle le centre de rétention administratif. Vous restez combien de temps là-bas ?
J'ai passé la nuit, donc j'ai appelé toute ma famille pour leur dire de ne pas s'inquiéter, je suis au centre de rétention et demain matin je vais passer devant le tribunal et vous allez me revoir peut-être. Et vers 5h du matin, ils sont venus me chercher au centre de rétention pour m'emmener sur Marseille.
Ah, ils vous ont emmené sur Marseille ? Comment ça se fait ça, qu'ils vous ont emmené sur Marseille et...
Pour éviter que les gens se manifestent encore une deuxième fois et me soutiennent. Donc je sais pas, ils ont décidé de m'emmener sur Marseille pour prendre le vol de là-bas à destination d'Europe.
Ils ont été transférés sur Marseille pour... essayer de les embarquer par Marseille. Et puis il y avait de la résistance aussi à Marseille. Donc pour finir, ils sont revenus, menottés, enchaînés. Voilà, quelque chose de tout à fait pas acceptable et tout à fait pitoyable. Voilà.
Et après, ils ont décidé, les gens qui m'ont accompagné à Marseille, les agents de police, ils ont appelé le préfet et il leur a dit de me ramener avec eux dans le même fourgon qui m'a ramené à Marseille. Je suis revenue dans le même fourgon dans lequel j'étais partie sur Marseille.
Vous êtes revenue à Lyon ?
Oui. Donc je suis retournée au centre de rétention où j'ai récupéré mes affaires, mon sac à main, et après ils ont décidé de m'emmener sur Lyon. Et là, c'est les conseillers municipaux et monsieur le maire qui sont venus m'attendre là-bas.
Okay. Donc finalement, c'est grâce à la mobilisation de tous ces gens que le préfet a décidé de vous relâcher.
Ouais.
Donc, on est en 2006, vos enfants, ils ont quel âge à cette époque-là?
Eh bien, ils avaient 10 ans et... oui, 8 ans et 10 ans.
Donc, 8 ans et 10 ans, donc eux sont avec vous, on rappelle. Ils subissent aussi le centre de rétention, le déplacement à Marseille.
Tous les soirs quand je pleure, tous les jours où je suis pas bien, tous les jours où ils me soulagent, ils me supportent. Quand j'étais dehors, c'était mes amis et les élus de la mairie, les gens qui me soutenaient. Et à la maison, le soir, c'était mes enfants. Après, j'ai dû être hospitalisée une deuxième fois au Vinatier parce que le fait d'être menottée devant mes enfants et d'être traitée comme une criminelle, ça m'a beaucoup choquée. Et ça a choqué mes enfants aussi. Et puis, comme je vous le disais, c'était plus culpabiliser, c'était mettre mes enfants dans une situation que je ne devrais pas les mettre. Ils ne devaient pas vivre ce que j'ai... Ils n'avaient rien fait pour que je leur fasse vivre ce que moi, ils m'ont fait vivre.
Well, ظني تنساني تنسى وكريم حساني ونعود يا وغريب الراني يسلي يعشق في القلوب اللي ما يحنوا يسلي يعشق في القلوب اللي ما يحنوا نعمل جنحاني نقطع بحور وطاني ونقول لك يا للهاني ونعيد لك مجرى بيا والقلب واش غبنو ونعيد لك مجرى بيا والقلب واش غبنو قولوا شيلت العيادي واللي غرمها مضاني قهرني وبكاني الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه.
Chahilat Kahani, une chanson d'amour au milieu de l'histoire de Najet, partie d'Algérie pour fuir un mari et sa famille oppressante, venue en France pour soigner sa dépression. Mais au bout de 3 ans de présence sur le territoire, on ne renouvelle plus son titre de séjour et on vient l'accueillir en uniforme au pied du lit, elle et ses 2 enfants. Heureusement, la mobilisation de l'école Courcelles, l'école de Vaux-en-Velin où sont scolarisés ses enfants, a empêché l'expulsion. Mais tout n'a pas été résolu d'un coup, c'est la suite de l'histoire de Najet.
Najet, 7 ans de galère.
Ils m'ont libérée, mais j'étais toujours dans ces situations irrégulières. Donc il fallait que je continue à faire toutes les démarches possibles. Je suis passée devant le tribunal qui a refusé en premier temps ma régularisation. Et après, j'ai fait un appel devant la cour administrative. Et c'est là où la cour administrative a décidé que je reste en France et que la préfecture doit me donner un titre de séjour.
Ça, c'était quand ?
Le mois de février de 2009.
Okay. Donc quand même, vous avez, après cet épisode du centre de rétention, il y a encore eu 2 ans et demi.
Deux ans et demi où je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus si je devais laisser mes enfants, si je devais repartir. Comme je vous ai dit, je pensais plutôt, la seule chose à qui je pensais, c'était à la scolarité de mes enfants. Et j'espère qu'ils vont très bien s'intégrer parce qu'ils travaillent très bien à l'école et que je serai à la hauteur des gens qui m'ont fait confiance, qui ont décidé que je sois une femme intègre.
Durant ces 2 ans et demi, vous avez eu peur que ça recommence, qu'il y ait de nouveau la police qui vienne ?
Oui, tous les soirs. À chaque fois qu'on venait frapper le soir à la maison, et ben, c'était une deuxième mort en fait. Nos cœurs, ils s'arrêtaient, que ce soit moi ou mes enfants. Je vous raconte une petite anecdote. Et ben, un jour, mon fils, il n'a pas été à l'école parce qu'il avait beaucoup de fièvre, il était malade. Et vers 11h, le facteur, il est venu toquer à la porte. Et comme il a toqué un peu fort, mon fils a perdu connaissance. Et j'ai dû lui faire du bouche à bouche, le réanimer pour qu'il se réveille parce qu'il a pensé que... Il m'a dit, maman, c'est la police. Et du coup, il a perdu connaissance.
Jet, 7 ans de galère.
Donc voilà, donc aujourd'hui tout va mieux.
Oui. oui.
Vous n'avez pas encore cette fameuse carte de 10 ans?
Non, pas encore, mais j'ai une lueur d'espoir quand même. J'ai un récépissé qui m'autorise déjà à travailler. Donc j'ai fait toutes les démarches possibles, j'ai commencé à postuler. Et hier on m'a appelé pour me proposer un travail pour faire aide à domicile. Et comme je suis une personne qui aime beaucoup aider les autres, eh ben, je vais me consacrer à aider les personnes plus âgées que moi. Et voilà.
Donc ça y est, vous avez un travail. Vos enfants sont en quelle classe maintenant?
Ils sont en 6e tous les deux et ils passent en 5e.
Ça marche bien?
Oui, très bien. Depuis que nous sommes régularisés, ils travaillent un peu plus, ils se sentent plus investis, et ils n'ont pas peur. Quand ils vont à l'école, ils n'ont pas honte parce que le fait d'être sans papier, on a l'impression que c'est un délit, mais c'est quand même un titre qu'on... C'est une étiquette qu'on nous inflige, et quand on est sans papier, automatiquement on est quelqu'un de mal vu. C'était mon anniversaire.
Eh ben bon anniversaire alors.
Merci.
Ça vous fait quel âge dans l'histoire?
45 ans.
45 ans.
Nadjet, 7 ans de galère.
Donc je suis à Vaux-en-Velin ce mardi 21 avril à côté du Mas du Taureau dans une école qui s'appelle l'école Angelina Courcelle. Et dans une des salles de classe, il y a une petite soirée avec différentes personnes qui mangent et qui boivent pour fêter Nadjet.
Alors, l'école Angelina Courcelle, c'est la plus ancienne école de la ZUP de Vaux-en-Velin. Voilà, c'est une petite communauté scolaire qui accueille environ 500 élèves entre l'école primaire et l'école maternelle.
C'est qui Angelina Courcelle?
Angelina Courcelle, c'était, on va dire, une copine de Louise Michel. On sait très très peu de choses sur elle.
Pendant la
Mais
commune.
C'était une ouvrière de la commune de Paris. Voilà, donc les enfants de Nadjet étaient scolarisés dans cette école. Voilà, donc l'école avait commencé à se mobiliser autour d'elle, puisque, bon, on dira que c'était une maman d'élèves qui participait beaucoup aux activités de l'école, aux accompagnements dans les sorties, aux ateliers qui avaient lieu dans l'école où on fait souvent appel aux familles. Voilà, donc c'était une maman... Une vraie partenaire de l'école, une maman dynamique. Voilà, donc elle s'en est ouverte à l'équipe enseignante qui l'a soutenue. L'école a plusieurs fois été totalement fermée avec tous les enseignants en grève pour soutenir Nadjet et les deux enfants dans ce combat. Et puis, voilà, on a eu la bonne surprise que finalement, voilà, ça s'est bien fini. Alors, bon, maintenant, c'est un titre de séjour temporaire, hein, c'est que pour un an.
Donc c'est la première fois qu'il y a une mobilisation comme ça ici?
Bah, je dirais qu'à Vaux-en-Velin, on est coutumier du fait. On a eu d'autres familles à l'école, notamment la famille Paille-Paille. Bon, ça s'était bien terminé aussi, mais ça n'a pas eu l'ampleur et la durée de la famille Nouyoua.
Il y a d'autres familles là que vous suivez comme ça?
Alors pour l'instant, on disait, eh ben, à l'école, on n'a plus personne, ici à Angelina Courcelle. Mais moi, je dirais, on n'a plus personne tant qu'on ne connaît pas les situations, parce que... Bon, c'est pas une chose qu'on demande. Nous, on inscrit les élèves à l'école et ce sont des élèves et on connaît souvent absolument pas la situation administrative des parents. Et donc, c'est le jour où ils sont en danger, le jour où ils sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, souvent qu'ils se tournent vers l'école.
Jean, merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais servir à boire. Alors, du coup, il y a une petite fête organisée.
Voilà, c'est un petit truc pour qu'on se voit pas que dans les mauvais moments, mais aussi dans les bons.
Alors, est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous êtes en train de feuilleter, là?
Je suppose que c'est la revue de presse de tous les éléments de la lutte depuis le début, avec les articles de journaux, les documents officiels, oui, les différents rebondissements, les photos.
Vous faites partie des gens qui ont soutenu la famille?
Pas de près, mais qui ont soutenu, oui, oui.
Comment vous avez entendu parler de cette histoire?
Dans le quartier et puis par le centre social du Monde Réel aussi, qui a soutenu. Et puis j'ai participé à certaines soirées de soutien à Nadjet et puis à d'autres familles sans papier, voilà, avec les diverses associations, l'école, le centre social, la CIMAD, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai connu et que j'ai soutenu.
Voilà. Vous êtes de Vaux-en-Velin?
Je suis de Vaux-en-Velin, oui, je suis d'à côté là. La politique d'immigration, elle est faite sans beaucoup de respect des gens, des familles. quelquefois de manière un peu subjective, et là-dessus, je suis pas d'accord.
Bon, moi, je vous remercie, je vous laisse continuer de feuilleter la revue de presse. Alors, ce soir, Najat, c'est vous qui faites le service?
Oui.
Expliquez-nous un petit peu l'objet de cette réunion, de cette petite fête.
Ben, avec toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant toute la période où j'étais vraiment, j'avais besoin d'eux, et ils m'ont soutenue moralement. Ils ont été là avec moi au tribunal, à la cour administrative. Ils ont même été voir monsieur le préfet avec les parents d'élèves. Et pour le remercier, j'ai essayé de faire une petite réception pour remercier tout le monde, entre monsieur le maire qui est très 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 magnifique, qui nous a reçus à la commune de Vanvelin les bras ouverts. Il n'a pas cherché à savoir d'où est-ce qu'on venait, ni quand, ni comment, ni la religion, ni rien du tout. Il nous a pris tant qu'une petite famille, et voilà.
Écoutez, moi j'ai encore en mémoire l'arrivée de Najat et de ses deux enfants à la sortie des services de la préfecture après ce douloureux, embarquement à Saint-Exupéry. Voilà. En tout cas, pour dire qu'aujourd'hui, c'est un grand moment de satisfaction et même de joie que de fêter la régularisation de... ta régularisation,
voilà.
et celle de tes enfants. Et je dirais que ce mouvement de solidarité est bien dans la tradition de cette ville. Cette ville, elle s'est faite, elle s'est construite par l'apport d'une foule de migrations, les premiers Arméniens qui avaient fui leur pays suite... au génocide dont ils avaient été victimes, les Russes blancs, les Yougoslaves, les femmes hongroises qu'on allait chercher en Hongrie pour travailler à la soie, les Polonais, et puis les Indochinois à l'époque, et puis après les gens du Maghreb, les Italiens, les Espagnols, etc. C'est une ville qui fait la démonstration que l'humanité est en fait un rassemblement de nomades. Et je crois que ce nomadisme a contribué à la progression de l'humanité, parce que ça a fait circuler la pensée, ça a fait circuler les idées, ça... voilà. Et donc, notre ville, elle est le résultat de tout ça. Et on a en mémoire des sans-papiers qui, après, ont marqué l'histoire de cette ville. Je donne toujours en référence quelqu'un comme Micolini, qui était un sans-papier italien fuyant Mussolini, et qui a fini adjoint au maire à Vaux-en-Velin, voilà. Et puis bien d'autres, et d'autres qui ont donné leur vie.
J'espère que je vais finir la même chose.
Et puis, j'espère.
En tout cas, je vise plus haut.
Pour le moins tes enfants.
Non, je voulais vous remercier, vous, tous les gens qui m'ont aidé, les gens de Courcelles, Isabelle, Monique, Monsieur Brunel, Monsieur le maire et toute l'équipe de la mairie, et tous les instituteurs et les institutrices. Et je vais commencer à travailler et je vais leur prouver que toute la confiance qu'ils m'ont donnée, je vais être à la hauteur de la confiance qu'ils m'ont faite. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est moi qui vais vous payer un café. C'était Najat, 7 ans de galère.
Un reportage d'Olivier Minot.
Merci à Najat. Merci aussi à Mathias Aitali, à Jean-Pierre Brunel, à l'équipe de l'école Angelina Courcelles à Vaux-en-Velin et à tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisés pour permettre à Najat de rester. Salut.